Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro estival de Planche Casse-Zébule où nous allons continuer à parcourir l'histoire de la bande dessinée. On a commencé par un ouvrage emblématique, Tintin au pays des soviets. On va continuer par deux émissions un peu plus historiques où on va revenir véritablement sur les origines de la bande dessinée. Était-ce déjà de la bande dessinée? Oui, non. Est-ce que les histoires en images, est-ce que les estampes où il y a une succession d'images qui sont organisées en séquences sont ou pas de la bande dessinée? Voilà, c'est une question qu'on va se poser avec Christole Seyec. Bonjour Christole.
Oui, bonjour Richard. Ça m'a semblé être une question intéressante. Après tout, peu importe que les œuvres dont on va parler soient de la bande dessinée ou pas, elles sont très intéressantes à elles seules. Mais d'un point de vue entre guillemets scientifique, on peut se demander qui, pour le premier, a créé cet art que tous les deux et que les éditeurs également aiment tant. Et donc, on va essayer de rechercher dans le passé lequel, à nos yeux, a vraiment été le créateur de la bande dessinée. Alors, je dis scientifique, donc il faut commencer par une question. Comment on pourrait tous les deux définir la bande dessinée? Qu'est-ce que c'est à nos yeux la bande dessinée?
Alors, tous les deux, il y a quelques personnes qui nous ont précédés. Je n'ai pas rouvert tous les livres excellents de Thierry Gonstein pour répondre à cette question, mais voilà, il serait important. Lui et Benoît Peters sont vraiment les deux spécialistes francophones à consulter sur toutes ces choses-là. Ce qui définit véritablement la bande dessinée, c'est d'une part le fait que c'est une histoire séquentielle, autrement dit, une histoire qui se compose d'une suite de moments précis qui sont des moments à la fois qui sont dessinés avec en revanche une liberté absolue dans la manière de dessiner et même dans l'organisation de l'espace, même si peu à peu le fait que cette séquentialité se fasse à travers l'espace physique en fait du livre, donc où on se retrouve avec plus ou moins, qu'il s'agisse d'un format à la française ou à l'italienne, c'est-à-dire horizontalement plus large que haut, ou au contraire d'une hauteur plus grande que la largeur, avec une série de cases et surtout cette alliance indissociable du texte et de l'image. C'est-à-dire, si je prends une succession d'images qui me permettent de raconter une histoire, mais que cette proto-bande dessinée est totalement muette parce que personne n'avait eu l'idée à ce moment-là d'y insérer du texte, eh bien, je ne suis pas dans une bande dessinée. Alors, à contrario, que si je prends une bande dessinée aujourd'hui ou sur certaines planches ou même parfois des albums entiers, il y a une séquentialité qui est totalement muette. Ce mutisme de l'œuvre n'empêche pas qu'il s'agisse d'une bande dessinée, car décider de la rendre muette, c'est malgré tout l'insérer dans un moment historique où la bande dessinée existe bien et bien constituée comme genre. En fait, c'est un genre qui remonte au 19e. Mais justement, c'est intéressant. Repartons, Christole, sur ce qui pourrait être des bandes dessinées et demandons-nous s'il s'agit d'une proto-bande dessinée ou de tout à fait autre chose.
Alors, je vais...
Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ma définition, au passage ?
Alors, je pense qu'il faut que ce soit dessiné et non pas gravé. Voilà, pas de sculpture, pas de... Voilà, du dessin. Ensuite, au sujet du texte, j'accepte ta définition. Moi, j'aurais accepté le terme bande dessinée s'il n'y avait pas eu de texte. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie du monde de la BD, ces fameuses bulles qui créent cet art. Donc, je veux bien restreindre un petit peu l'existence d'un texte. Ensuite, pour ma part, ce n'est pas la peine forcément que ce soit édité sous forme de papier, puisque peut-être que dans quelques décennies, plus rien ne sera sur papier, tout sera sur ordinateur. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop restrictif sur l'édition format papier, mais on peut encore discuter de ce point-là. On va en discuter justement en remontant lointain dans le passé. Je te propose d'aller rejoindre notre ami Cro-Magnon, qui en moins 20 000 est dans sa grotte, imaginons en Dordogne, la grotte de Lascaux. Et il lui passe par l'idée, dans le paléolithique supérieur, de peindre sur la grotte des chevaux, des eurocs, des bisons, des cerfs, des ours, des rhinocéros, et même des grands félins et des animaux assez étranges qui ressemblent un peu à, on ne sait pas trop à quoi d'ailleurs, à des licornes sans doute. C'est une suite de dessins dans différents lieux, différentes grottes. Est-ce que ça raconte un récit Sans doute, c'est l'homme au milieu des animaux. D'ailleurs, dans la grotte, il y a un homme qui est dessiné. Le rôle de la faune est essentiel.
Est-ce que c'est
C'est
vraiment un
lui.
récit?
Alors, est-ce que c'est un récit? Pas vraiment. Ensuite, est-ce qu'il y a des bandes dessinées primées à Angoulême qui étaient des récits? Non plus.
Mais alors, je veux dire, si on fait l'histoire de la bande dessinée, on va pas faire en même temps l'histoire de la décadence de la bande dessinée ou l'histoire
D'accord.
des pas de côté de la bande dessinée. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pourrait se dire aussi, par exemple, il y a un tableau de Gérôme que j'aime beaucoup, donc peintre-pompier. Tout le monde connaît son Myrmidon qui demande à la foule si on va tuer ou pas le gladiateur qu'il a abattu. Et donc la foule et l'empereur en tête est en train de baisser le pouce. Et donc malheureusement, vaincu. Et il y a un autre de ces tableaux où on voit la foule qui repart du Golgotha vers Jérusalem et donc les trois croix du Golgotha ne sont représentées que par l'ombre qui est sur le sol. Et donc d'une certaine manière, c'est un récit, c'est-à-dire on a pour peu qu'on connaisse les évangiles, une lecture de tout ce qui a précédé ce moment où les gens s'en vont et quittent le lieu du supplice, mais pour autant, ce n'est pas un récit au sens propre, c'est juste un moment qui cristallise tout un récit préexistant et qui, en quelque sorte, donne le maximum d'intensité au moment de déréliction le plus profond. Mais voilà, on peut
Alors,
effectivement raconter ce tableau et on peut le transformer en un récit qui n'est pas juste un mot, pas juste une phrase, pas juste une lettre, mais pour autant, le tableau se présente comme une œuvre totale, complète, finie et ne s'inscrit pas dans une série préexistante ou qui lui succéderait.
puisqu'il faut, on est d'accord là-dessus, une sorte de séquence de dessins qui raconte un récit, j'écarte Lascaux, j'écarte également dans l'Égypte antique. Des fresques figurant sur des temples racontant une victoire de Ramsès II contre la Nubie, j'écarte cela. Si on s'intéresse à la Grèce antique, au 9e siècle, la peinture sur céramique délaisse le style géométrique avec des formes géométriques pour être figurative et retrouve des scènes guerrières religieuses. Mais il n'y a pas vraiment de séquence racontant un récit. C'est assez étroit, c'est seulement sur un vase. On peut passer à Rome maintenant avec la colonne Trajan. Elle a été édifiée en 113, c'est une haute colonne de 200 mètres de long qui raconte les guerres de Trajan contre les Daces. Il y a 155 scènes qui se suivent. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus que ce qui a été sculpté sur la colonne, ces scènes-là, les personnages, alors qu'à l'époque, on se doute que c'était peint. Mais ce n'était pas vraiment du dessin, c'était, tu l'imagines, une sculpture peinte. Donc, on va dire que c'est une colonne, une bande de colonnes, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais on écarte l'idée de bande dessinée. Mais les moines copistes, alors, qu'est-ce qu'on va dire des moines copistes qui pouvaient illustrer la Bible avec une multitude de dessins? Et là, il y a bien un ensemble de textes et de dessins.
Alors, il y a bien un ensemble de textes et de dessins, mais je crois d'ailleurs que tu as remarqué et tu me l'as dit quand on préparait cette émission qu'il y a à la fois une division en cases, que ce qu'on appelle les bulles et que c'est le nom savant serait phylactère et donc autrement dit la manière dont les personnages parlent et où on manifeste les paroles qui sont attribuées à chaque personnage parce que le phylactère se rapproche de sa tête. Donc il y a des codes qui ont été repris par la bande dessinée. Alors, soit parce que ceux qui inventent la bande dessinée au 19e sont familiers de ces codes-là, soit parce que en fait c'est une manière naturelle d'insérer la parole dans l'espace à deux dimensions de la page où est porté le dessin. Mais ces enluminures sont justement des manières d'ajouter une illustration à un texte qui est, lui, le support principal, ce ne sont que des agréments et ce n'est pas l'ensemble du propos, même si certaines de ces images ont évidemment une fonction de synthèse, une fonction de pédagogie. Mais là aussi, on n'est pas encore véritablement, à mon sens, dans la bande dessinée, car l'ensemble de ces vignettes ne constituent pas véritablement une histoire en tant que telle. Elle ne peut absolument pas se séparer du support du texte.
Alors, je vais essayer de te piéger. Restons à l'époque médiévale, dirigeons-nous en Normandie à Bayeux. La tapisserie de Bayeux, tissée en 1066 et 1082, on a neuf teintes de laine brodé sur du lin. Ça fait 68 mètres de long. Et là, nous avons bien les images qui racontent la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ainsi que du texte en dessous. On a vraiment une séquence d'une suite de dessins, de peintures avec du texte. On est proche quand même de la bande dessinée.
Alors, oui et non. C'est-à-dire, je trouve que la parfaite continuité, le format, c'est une bande en tant que telle, c'est vrai. Mais par exemple, la division des scènes n'est pas si nette. Et là, on serait plutôt à mon goût dans une proto-bande dessinée que dans une véritable bande dessinée telle qu'elle a pu être inventée. Inventé plus tard, voilà, qui est quand même. Remarque, oui, non, c'est ça, là, je m'embarque dans quelque chose auquel je ne suis pas capable de le finir. Voilà, spontanément, je dirais que non. Il faudrait que je retrouve les textes savants que j'avais lus il y a une éternité, qui expliquaient pourquoi la Tapisserie de Bayeux n'est pas une bande dessinée ou que ça paraît abusif. Je crois, malgré tout, ça tenait au fait que le genre bande dessinée apparaît aussi au 19e, à un moment donné où on peut reproduire la séquence, à un moment donné où il y a surtout le feuilletage, autrement dit, où les conditions de diffusion de l'ouvrage et les conditions d'utilisation de l'ouvrage fondent un autre rapport à la page imprimée, un autre rapport à l'image successive. Là, la Tapisserie de Bayeux, on ne la feuillette pas, on la déroule. On n'est pas dans ce qui, pour le moment, est véritablement constitutif de la bande dessinée, quelle que soit la latitude et quelle que soit l'époque, c'est-à-dire du milieu du 19e jusqu'au premier quart du 21e.
Bon, et pareillement, si on franchit la porte d'une église et qu'on tombe sur un magnifique polyptyque, ces panneaux peints les plus connus étant réalisés par Jérôme Bosch, on va dire que ce n'est pas de la bande dessinée, il n'y a que 3, 4, 5 peintures qui représentent une scène très connue. Souvent, il n'y a pas de texte. Je vais un peu loin en voulant faire une comparaison avec la bande
Non, non,
dessinée.
c'est intéressant parce que là aussi, ça permet de réinsister sur les conditions d'utilisation. Les polyptiques, en fait, donc il y a une scène centrale qui est cachée par deux volets. Les volets sont peints recto et verso. Et on n'ouvre pas le polyptyque comme on veut. C'est-à-dire, c'est en fonction du calendrier liturgique que le polyptyque est fermé, le polyptyque est ouvert, il est ouvert complètement. Parfois, les panneaux se développent eux-mêmes et donc on ouvre un battant qui lui-même est en fait recouvre un autre battant caché et on finit par développer l'intégralité de la scène. Il y a une œuvre d'art contemporaine dans une église de Lyon où il y a comme ça trois polyptyques accrochés au mur et qui, une fois que chaque polyptyque est totalement ouvert et est mis bout, dessine une immense scène qui fait 9 ou 11 mètres de long. Mais voilà, d'une part, la scène est unique et d'autre part, ça n'arrive qu'une fois par an. Donc, autrement dit, les conditions d'appropriation de la séquentialité de ce qui est raconté ne sont pas du tout celles d'une bande dessinée normale où je prends le bouquin et je le feuillette.
Alors, à propos de feuilleter, si on s'intéresse à la découverte dans l'imprimerie, à ce qui s'ensuit, un petit bond dans le temps. En 1796, avec les premières impressions des images d'Épinal, on a des dessins bien qui sont faits sur papier, avec du texte explicatif sur la vignette, qui vont parler de sujets populaires, des images pieuses, histoire de France, je ne sais quoi. Bon. Tu vois, tu visualises un peu les images d'Épinal de l'époque.
Oui, mais donc, et là aussi, donc on a une certaine séquentialité. Je me souviens surtout d'une exposition sur les estampes au Louvre où il y avait le récit d'un martyr, d'un évêque au Moyen-Âge, et en 16 cases ou 12, avec deux ou trois couleurs. Il était décapité, désentripaillé, flagellé, crucifié, brûlé. Et donc, enfin, évidemment, à la dernière case, ça y est, enfin, il était mort. Et donc, il y avait bien une succession de supplices. Il y avait bien. Chaque case représentait un moment du supplice général qui était résumé par cette estampe. Mais là aussi, en fait, le fait de tout enfermer dans une planche, c'est comme si on me disait un roman peut ne tenir qu'en une seule page. Et ça fait un peu penser aux tentatives à la limite de l'Oulipo, où ils avaient par exemple imaginé le poème réduit à un seul vers, Rabindranath Tagore est dans l'escalier B, un magnifique alexandrin, ou réduit à un seul mot, fenouil, ou réduit à une seule lettre, X. Voilà. Et donc, on peut toujours trouver des choses qui s'approchent de ce qu'est une bande dessinée, mais fondamentalement, une bande dessinée, voilà, il y a plusieurs pages, elles se tournent, elles sont, ça raconte une histoire séquentielle avec un rapport texte-image, voilà, qui n'existe pas dans les autres arts.
La semaine dernière, on a exposé Tintin au pays des Soviets d'Hergé. As-tu un nom à me proposer avant Hergé, comme
Oui.
inventeur de la bande dessinée?
Alors, c'est pas moi qui le propose, ce sont les historiens de la bande dessinée qui considèrent que c'est le Suisse Rodolphe Töpffer qui invente véritablement la bande dessinée dans la première moitié du 19e siècle.
Alors, il faut peut-être avertir les éditeurs de Courtoisie sur le fait que Töpffer était aussi conservateur qu'Hergé.
Alors oui, alors il est suisse déjà et surtout il est aussi conservateur. C'est-à-dire, c'est amusant évidemment. Aujourd'hui, je pense que ses positions paraîtraient terriblement conservatrices, mais il avait quelque chose d'intéressant. C'est sa volonté de raconter des histoires en images où il est tout de suite très sensible au fait que l'originalité de ces histoires tient justement au fait qu'il conçoit des planches, que chaque planche est divisée en cases, qu'il tient beaucoup à ce que les textes soient manuscrits. Et par exemple, quand certains Français vont reprendre les dessins de Töpffer et les graver plutôt que les dessiner, ils vont substituer à l'écriture manuscrite de Töpffer une écriture typographique qui change complètement justement cette espèce de fusion du dessin et du texte. Mais cela dit, les histoires de Töpffer, voilà, qui ont enchanté nos arrière-arrière-grands-parents, en tout cas pour ceux qui considéraient qu'on avait le droit d'avoir des livres comiques dans la bibliothèque, ce sont des albums à l'italienne. Il y a eu plusieurs éditions et réimpressions. Voilà, ça reste assez compliqué à trouver, mais avec les histoires de Monsieur Jabot, de Monsieur Crépin ou les amours de Monsieur Vieuxbois, voilà, c'est à chaque fois des histoires un peu ridicules, un peu grotesques, avec des effets très amusants, des effets de vitesse, des effets où parfois d'ailleurs le dessin se brouille tellement les choses sont censées aller vite. Autrement dit, Töpffer pose un certain nombre de principes de narration qui vont devenir ceux de la bande dessinée, c'est-à-dire la représentation du mouvement, l'alliance du texte et de l'image, la récurrence des personnages et surtout le fait de raconter une véritable histoire, qui sont parfois une succession de scénettes ou une succession de sketchs, mais avec le même héros de bout en bout. Et c'est vraiment lui qui fonde le genre, et d'ailleurs, et qui tombe après dans une. Non pas en désuétude, mais en fait, c'est un saut conceptuel qui est si important qu'il n'a pas tout de suite des successeurs.
Exactement. Je te remercie de me faire découvrir Töpffer. J'avais sans doute lu son nom, mais je l'avais oublié. Ce qui m'a permis un peu de m'intéresser à sa vie. Et je vais raconter aux éditeurs très rapidement une petite histoire. C'est l'histoire de Töpffer, dont le père, pardon, est peintre. Et Töpffer lui-même veut devenir peintre, mais il souffre d'une maladie des yeux qu'il contraindra toute sa vie à porter des lunettes noires. Et ça brise sa vocation de peintre. Il ne peut pas être peintre. Il devient un triste directeur d'internat. Et dans son internat, c'est là qu'il commence à dessiner et à écrire des textes, à créer la bande dessinée. Il montre ça aux pensionnaires, ça l'amuse, mais il ne veut surtout pas l'éditer puisqu'il a peur que sa création nuise à son parcours d'écrivain, puisqu'il devient romancier. Et c'est le grand Goethe qui découvre ce travail par un ami commun, qui dit à Töpffer, il faut impérativement que tu le publies, tu as créé un nouvel art. Une belle histoire et sa petite maladie, en fin de compte, a permis de créer la bande dessinée. Alors, si les éditeurs veulent découvrir Töpffer, j'ai découvert, enfin, je me suis rendu compte qu'on peut retracer, on peut relire ces bandes dessinées sur le site internet Gallica. La plupart de ces œuvres s'y trouvent. Elles ont été scannées et on peut les parcourir. Je ne sais pas si en format papier on peut les trouver aujourd'hui. Si c'est réédité de façon neuve, je ne sais pas, mais en tout cas,
Alors,
c'est sur
je ne crois
Internet.
pas. Il y avait eu des reprints de Slatkin, mais voilà. Donc là, pour le moment, et pour autant que je sache, mais c'est vrai que je n'ai pas fait une recherche approfondie. Je me suis contenté de puiser dans les bibliothèques des grands-parents et des oncles et tantes, avec leur permission, évidemment. C'est un conseil, chers enfants, chers amis, ne volez pas les livres des autres, c'est mal. Mais quand bien même ce livre est beau et quand bien même vous avez l'impression qu'il est plein de poussière et que vous êtes le seul à l'avoir lu, voilà, gardez vos mains dans vos poches. Il y a un très bon site qui s'appelle Topferiana, comme donc topferiana.fr, Topferiana, qui est tenu par Antoine Sausvert et qui s'intéresse à ce qu'il appelle les littératures graphiques des 19e et début du 20e siècle. Et donc, ce sont toutes les histoires séquentielles qui sont racontées après Topfer et avant la véritable bande dessinée, alors qui aux États-Unis c'est The Yellow Kid de Utko, c'est aussi Little Nemo in Silverland, mais on en parlera la prochaine fois. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit bien comment Topfer installe l'idée d'un véritable roman graphique avec cette alliance du texte et de l'image, cette séquentialité, ce découpage en cases, donc les phylactères et les narratifs, et il y a les deux, et aussi tous ces effets de visuel qui connote là le mouvement, ici les changements atmosphériques, etc., l'étonnement. Et on se retrouve sur le blog Topferiana. Vous avez la manière dont on va s'emparer dans la littérature illustrée, dans les sur une planche ou sur plusieurs pages, de cette idée d'une histoire racontée en images successives, sans pour autant qu'on aboutisse véritablement à la bande dessinée contemporaine telle qu'on la connaît, et dont effectivement les albums d'Hergé sont la manifestation canonique.
Bien. Il nous reste un peu de temps ou...
Il nous reste un peu de temps. J'ai un œil vigilant fixé sur l'horloge.
On va peut-être aussi évoquer que Topfer, qui a réalisé les premières bandes dessinées, parmi celles-ci, a réalisé la première bande dessinée politique, puisqu'il se présentait aux élections dans un parti conservateur en Suisse et il luttait dans son canton de Genève contre un libéral qui avait fondé le Parti radical. Et donc, pour se moquer de celui-ci, Topfer a créé une bande dessinée, L'histoire d'Albert, dans laquelle il se moque de James Fazi, qui était le fondateur du Parti radical, en dénonçant un dilettant qui s'enrichit au détriment des électeurs de Genève et qui finit par mettre Genève à feu et à sang. Et donc, le monde des historiens de la bande dessinée considère qu'il a créé lui aussi la première bande dessinée utilisée à des fins politiques. Et la semaine prochaine, alors, on prévoit de continuer, on va peut-être franchir l'océan Atlantique pour s'intéresser aux États-Unis ou...
Eh bien, oui, parce que justement, avant que ça ne revienne en France, il y a à la fin du 19e aux États-Unis, notamment dans les journaux et avec toutes les planches du dimanche, donc qui sont des plans. Il y a déjà la traduction du comic strip, donc là on a le droit de le dire puisqu'on est en train de parler vraiment de la bande dessinée anglo-saxonne. Il y a ces histoires en images, mais qui sont réduites à une seule bande, mais qui sont néanmoins des feuilletons. Et il y a les planches du dimanche qui sont en couleur donc sur toute la hauteur du journal, et c'est là où The Yellow Kid de Utko, Katzenjammer Kids ou encore donc Little Nemo in Silverland de j'ai oublié son nom, ça m'apprendra, qui sont particulièrement un Winsor McKay particulièrement intéressantes. Voilà. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, il y a L'invention de la bande dessinée de Thierry Grunstein est une biographie qu'il a consacrée à Topfer et qui était publiée chez Hermann. J'ai l'impression que le livre est épuisé et qu'il n'a pas été réimprimé. Voilà, si vous tombez dessus dans une boîte à livres, chez un oncle ou une tante, dans la bibliothèque des grands-parents ou à la bibliothèque municipale, n'hésitez pas, empruntez-le. Voilà, c'est une étude tout à fait intéressante sur Topfer et la façon dont il a posé des principes qui vont être redécouverts et ensuite perfectionnés et ensuite transformés, mais qui est véritablement vraiment quelqu'un de majeur et voilà, et un peu oublié et ensuite nettement redécouvert et passionnément exploré, voilà, par Thierry Grunstein. On a tellement parlé de ce qui nous passionne que j'ai oublié évidemment le plus important, ou presque. Merci mille fois de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté cette émission. Radio Courtoisie ne vit que par et pour vous, donc n'hésitez pas à nous aider à nous aider à traverser l'été, notamment avec soutenir.rc.fr. Vous pouvez faire vos dons en ligne, soutenir.rc.fr, ou au contraire à nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, et qui, de toute façon, que vous nous donniez numériquement ou que vous nous donniez analogiquement avec un chèque, vous aurez droit à une réduction d'impôt de 66%. Voilà, donc les reçus fiscaux vous seront envoyés. C'est une bonne action et maintenant que j'ai fait appel à votre cœur, après, grâce à Christol, avoir, j'espère, lui et moi, parlé à votre intelligence, n'hésitez pas, voilà, compulsez toutes les vieilles bandes dessinées, intéressez-vous à ce qui a précédé de 10, 40 ou même 100 ans, ce qui paraît aujourd'hui, et même 150 ans dans le cas de Topfer. C'est véritablement une mine de comparaisons intéressantes et une manière parfois un peu rude, parce que on n'adhère pas forcément au dessin, aux histoires, au ton, mais de se dire en fait qu'on est en train de regarder véritablement quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui nous séduisent tant dans les histoires contemporaines. Et le fait d'être plus conscient de ce qui se passe, et bien permet de mieux lire et de mieux en jouir. Merci beaucoup, Christol. Merci beaucoup, chers amis. Et à la semaine prochaine.